il y a 15 ans à peu près, on partit du principe simple. On s'est dit, bon, les mairies font des efforts énormes pour fleurir, entretenir leur commune. Qu'est-ce que nous, on pourrait apporter en plus pour les conseiller, pour les aider à faire mieux et qui aurait un retour citoyen, un retour biodiversité important. Donc, on a imaginé apicité. Alors, apicité, c'est quoi? C'est selon ce que la mairie ou la commune va faire d'événements ou que va faire attention au niveau des produits, au niveau des fleurs, il va y avoir une évolution d'une abeille à 3 abeilles.
C'est un label où on va, comme les villes et villages fleuris, on a 1, 2, 3, 4 fleurs et vous, ce label apicité, voilà, c'est pas heureux, c'est api comme apiculteur, hein, API, apicité, on va avoir 1, 2, 3 abeilles quand on s'engage. Et donc ça, c'est un appel à tous les maires de France, renseignez-vous sur apicité pour essayer de faire les choses bien pour les abeilles et pour les enfants de votre ville.
Et donc apicité maintenant est connu, mais maintenant aussi on a depuis 20 ans ce qu'on appelle ASE, qui est donc Abeille Sentinelle Environnement, qui est en fait un programme qu'on a mis en place depuis 20 ans, qui permet à vos entreprises, mais aussi aux collectivités, de faire ce qu'on appelle un rucher pédagogique au sein d'une commune, au sein d'une entreprise, et qui permet de sensibiliser les salariés, les citoyens autour de l'abeille, mais autour de la biodiversité. Et là, à l'intérieur, ils voient par exemple 3 ou 4 ruches où ils peuvent intervenir, soit devenir, pourquoi pas, prendre des cours d'apiculture et voir un petit peu en réel. Et ça, c'est un deuxième domaine pour l'apiculture qui permet, je dirais, de sensibiliser, de développer l'idée de protéger nos abeilles.
C'est vous qui venez avec un rucher école, c'est pas la ville qui va acheter quelques ruches,
hein. Si, justement. Le programme est là, c'est vrai.
Donc, qui c'est qui s'en occupe des ruches, hein?
Voilà. Alors en fonction, je prends un village qui a 2000 habitants, il veut faire un rucher pédagogique. Nous, on va amener les ruches, on va amener l'ensemble de la documentation et on va amener surtout un apiculteur référent qui va venir, lui, s'occuper des ruches. Donc la mairie ou la collectivité ou l'entreprise n'a qu'une chose à faire, nous donner un espace pour mettre une ruche ou 2 ou 3 ruches à l'intérieur et l'apiculteur va venir. Mais il ne va pas venir uniquement pour s'occuper des ruches, il va venir plusieurs fois par an, voire tous les mois s'il le faut, pour faire de la sensibilisation, faire de la découverte apiculture, faire une formation sur l'apiculture, diversifier les enfants, faire goûter du miel, faire voir un petit peu comment il est. Et une fois par an, pendant 3 jours, on a les apidées qui sont en fait une découverte assez sensationnelle pendant 3 jours où on va discuter de l'apiculture, de la biodiversité, on va goûter du miel, on va fabriquer des petites ruchettes, enfin bref, toute une animation autour de l'abeille.
Dernière. L'apiculteur se meurt, il a eu son heure, il a fait son beurre, l'apiculteur. D'heure en heure, l'apiculteur effleure la fin du labeur. Happy, happy culteur. Dans une autre vie, les marguerites, ces feuilles de ralenti, personne n'est vainqueur. Les proies, les prédateurs, savourent le nectar d'une pomme d'api. Happy, happy culteur. L'heure, c'est l'heure, on n'est pas d'humeur à verser des pleurs. Fiers sont les ouvrières, le jour un tailleur, le soir qui pierre. Quand la mort vous susurre les serments veloutés, que rien n'est moins sûr, n'aura plus d'importance, ni la chaleur, ni les piqûres. Happy, happy culteur. Happy, happy culteur. L'apiculteur se meurt, trouve l'interrupteur, une oasis, vous allez border des bagnoles, que la splendeur n'effraie plus. Happy agriculteur. Happy apiculteur. Happy apiculteur.
Alors nous sommes de retour avec Patrick Graziera, donc secrétaire général de l'UNAF, l'Union Nationale des Agriculteurs Français, apiculteurs français, et président d'ailleurs de l'abeille Gascogne aussi, hein, on va peut-être en parler. On a parlé de tous ces dangers, entre autres dus à l'agriculture, il y a aussi quand même cette histoire de frelons, qui n'est pas, il y a eu le varroa aussi qui a été un pou, qui a été assez terrible pour l'abeille, lui aussi qui est venu d'ailleurs, et il y a le frelon. Alors quel est l'impact de ce frelon asiatique, hein, le frelon européen, sur les ruches et sur le travail des apiculteurs actuellement?
Alors voilà un grand sujet. Je crois que tous les amis apiculteurs qui nous écouteront aujourd'hui savent ce que c'est que le frelon asiatique, les citoyens un petit peu moins. Le frelon asiatique d'abord a apparu en France, malheureusement en sud-ouest, en 2003-2004. On a commencé à nous à dire attention, il est en train de manger toutes nos ruches.
Et il est arrivé, on peut le dire, avec des poteries qui sont arrivées à Bordeaux pour faire de la décoration, poteries qu'on aurait pu très bien fabriquer en France. Nos emplettes ne sont pas que nos emplois, c'est aussi l'air que l'on respire, et c'est aussi à cause du climat et des transports. Et c'est aussi tout un tas de cochonneries qui arrivent comme ça, en scrud, comme on dit, dans les cargos.
Ouais, ça je suis d'accord. On aurait pu s'en passer largement. Alors ce que je voudrais dire pour continuer, bien sûr, nous on a crié, attention, les abeilles sont en danger, on le voit, les frelons nous mangent les abeilles. Alors certains édiles français dans la recherche ont dit, c'est rien, il va disparaître, dans un an il ne sera pas là. Oui, tu as raison, 25 ans après il a disparu, puisqu'il a conquis pratiquement toute la France, voire une grosse partie de l'Europe aujourd'hui, et ça va s'arrêter. Donc ça c'est un vrai problème. Un vrai problème, pourquoi? Parce que le frelon ne fait pas que manger l'abeille. Il a fait crever de faim, parce qu'en se mettant devant la ruche, il empêche, bien sûr, l'abeille n'est pas folle, elle n'a pas envie de mourir, elle empêche l'abeille de mourir, de se nourrir et d'aller nourrir leur congénère, et donc elle meurt de faim. D'ailleurs, la plus grosse mortalité que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'elle meurt de faim. Bien sûr que le frelon est une catastrophe, mais elle meurt vraiment de faim. Donc c'est là-dessus que l'on dit aujourd'hui, il faut un combat général. Alors les apiculteurs font ce qu'ils peuvent. Il faut même au-delà de ce qu'ils peuvent. Les pauvres, moi je les plains parce que je suis aussi apiculteur, c'est une grande catastrophe, mais on n'a pas de moyens. Mais ce n'est pas que des moyens financiers, c'est des moyens aussi de communication, comme on le fait aujourd'hui avec toi. C'est aussi des moyens de communication au niveau du civil, au niveau des citoyens. Alors c'est vrai que plus en plus on en parle, tant mieux. Mais ce que j'aimerais, c'est que ce soit les élites qui puissent le prendre en main. Je vois un exemple. Avec le sénateur Massé, on a passé une loi, l'UNAF a passé une loi sur le frelon. Elle a été votée dans les deux chambres à l'unanimité. Ça fait un an qu'elle est passée. Mais j'ai l'impression que quelques fonctionnaires ont du mal à faire les décrets d'application. Et je crois savoir que les décrets qu'on attend ne seront pas le reflet de la loi. Ça va bien nous énerver, et je crois qu'on va partir en combat sérieux là-dessus.
Alors c'est quoi cette loi dans les grandes lignes?
Alors les grandes lignes, c'est simple. Les grandes lignes, c'est l'obligation de détruire les nids de frelons, qu'ils soient dans un espace privé ou collectif, c'est important, alors qu'autrefois on n'avait pas le droit de le faire dans l'espace privé. Ça sera la loi. Le deuxième point fort, c'est donner des moyens d'organisation pour la lutte contre le frelon. C'est aussi des moyens de lutte au niveau généralisé, de faire des piégeages, par exemple, au niveau des fondatrices, chaque année, mais dans des espaces énormes. Parce que ce n'est pas qu'on va faire un piégeage de fondatrices uniquement dans ce secteur, il faut le faire à l'échelle nationale, si on n'arrivera pas. Donc voilà un exemple. Mais c'est aussi...
Alors c'est central, hein, ce piégeage des fondatrices, ça se joue en février-mars à peu près, quand les futures reines sortent. On vous propose, vous coupez une bouteille en plastique, vous coupez le goulot. Ah non, vous ne faites pas avec ça, vous? Moi, j'en piège plein comme ça.
Non, surtout pas. Alors,
super.
Alors, non. Alors là, je vais dire non, tant pis. Je sais qu'il y en a qui... Non. Pourquoi? C'est pas que ça ne marche pas pour le frelon. Mais le problème de la bouteille, c'est que ça prend aussi d'autres insectes à l'intérieur. Donc je dis aujourd'hui à tous les gens qui veulent participer, prenez des pièges sélectifs. on n'est pas obligé d'acheter dans le commerce, mais simplement protéger. Faites un grand grillage où il y a, les abeilles peuvent partir, mais pas les frelons, par exemple, d'accord ? S'il faut vraiment faire de sélectif, pourquoi ?
Moi, j'ai pas d'abeilles dans mes trucs. J'ai que du frelon et quelques papillons nocturnes.
Oui, mais tu les vois pas. Il peut y avoir aussi des mouches, il peut y avoir un tas de... Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est un peu dommage. Parce que ce qu'il faut qu'on chope, c'est surtout le frelon asiatique. Le reste, on n'en a rien à faire, d'accord ? Donc, j'insiste là-dessus, quand on fait un piégeage, vraiment faire attention à faire un piégeage sélectif.
Tu as dit donc un grillage, c'est quoi le diamètre ?
Je ne sais pas, honnêtement, je sais pas, il y a tellement de diamètres possibles, mais bon, il faut y veiller, pas de souci. Il y a des pièges, par exemple, qui sont faits avec du plastique, qui sont bien faits, avec des orifices parfaitement adaptés. C'est ça qu'il faut utiliser. Et ensuite, il ne faut pas les mettre n'importe où. Ça ne sert à rien de mettre des pièges partout. Il faut être dans un endroit où on sait qu'il y a des ruches, on sait qu'il y a de bord des ruches, on sait qu'il y a eu déjà des frelons. C'est là-dessus qu'il faut le faire.
Mais... Et près de plantes dans lesquelles ils vont ?
Oui, alors, bon, il faut savoir que par exemple, la fondatrice, qu'est-ce qu'elle cherche ? D'abord, elle cherche du sucre pour se développer. Alors, il y a une plante endémique qu'on connaît, c'est le camélia.
Si on sait qu'il y a des camélias, ça vient de Chine, oui. Donc c'est pour ça que le frelon va souvent sur les plantes originaires de Chine.
Absolument, voilà un exemple parfait d'une lutte intégrée, on peut dire. Donc c'est vrai, dès qu'il y a un camélia pareil, bon là, ils vont dans un piège, elles vont y aller. Mais pas que, elles vont sur des endroits de sucre très, très, très sucré. Parce qu'on a vraiment besoin pour se développer. Donc il faut faire un piégeage de printemps qui démarre selon les régions. Chez nous, c'est à partir du 15 février jusqu'à environ fin avril, début mai. On ne sait pas, d'accord ? Nous, ce qu'on fait par exemple dans nos communes, on met un piège tous les 300 mètres, par exemple. Et là, on s'aperçoit qu'on a une prédation qui descend de 10-15%. C'est déjà bien. Mais si on le faisait au niveau national ou même au niveau départemental, on aurait des résultats. Le problème, c'est que la nature a horreur du vide. On le fait d'un côté, mais je fais pas d'autre côté, ben les frelons vont venir, on les met d'accord. Donc j'insiste là-dessus, faire un piégeage important. Mais que, il n'y a pas que, il faut continuer le piégeage toute l'année. Parce que les frelons vont commencer à arriver vers le mois de juillet, mois d'août à peu près, et ils vont continuer jusqu'au mois de novembre, décembre. Le réchauffement climatique fait que les températures, vous savez bien, il y avait encore quelques jours, il faisait 22 degrés dehors. Donc il y a des fleurs qui reviennent, il y a des trèfles qui reviennent. Et automatiquement, le frelon a de quoi manger, donc il survit. Et c'est ça le souci. Donc il faut continuer à piéger tant que c'est possible. Moi, nous, on piège toute l'année, même en décembre, on continue à piéger. Parce que c'est ça qui est important. Moi, je veux dire qu'au niveau des citoyens, d'ailleurs, on va intervenir, le Lions Club nous a proposé de faire une réunion nationale pour présenter les différents modèles de piège, différentes modalités de piégeage. On va le faire, parce que c'est un appel à citoyens, pas uniquement comme projet d'agriculteur. Je sais qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui le font, avec nous, beaucoup d'apiculteurs, bien entendu, mais c'est un projet de citoyens. Si on y arrive, je crois qu'on aura peut-être quelques résultats.
Alors quand on a trouvé la grille, on le dit rapidement, moi ma recette, tu vas me dire si elle est bonne ou pas, je mets de la bière brune, du sirop de cassis et un peu de vin blanc pour qu'il n'y ait que le frelon asiatique, m'a-t-on dit.
Alors c'est une bonne recette, elle marche bien, elle marche bien, étudiée. Nous ce que l'on fait après cette période, je dirais, des fondatrices, entre le mois d'août jusqu'au novembre, du miel frelaté, du miel perdu. Et le miel, alors là on en prend des centaines, des dizaines de milliers avec le miel que l'on pourrait jeter par exemple. Voilà. Donc il y a deux périodes, je dirais, d'appât.
Bon, la conséquence de tout ça, c'est que les apiculteurs, être apiculteur aujourd'hui en France, c'est compliqué, alors que c'est un métier, je crois, qui plaît chez les jeunes, chez beaucoup de gens qui veulent revenir à la nature. C'est un métier qui plaît. Où en sont les agriculteurs actuellement en France ? Est-ce qu'il y a un bon renouvellement des générations ou pas ? Enfin, toi, tu as les chiffres, tu as la vision. Je serais content que tu la partages avec moi et que tu me montres, au-delà de ce qui arrive à l'abeille, ce qui pèse aussi sur les agriculteurs.
Alors, ce métier est fabuleux. On est piqué par l'abeille. Hein. Moi, j'ai été piqué grâce à ma fille. Donc, c'est comme ça que j'ai connu l'apiculture. Je dirais que faire le métier d'apiculteur, c'est être d'abord passionné. On ne peut pas faire ce métier uniquement que pour récolter du miel. On n'a rien à faire, on est bien d'accord. Mais c'est avant tout une vie particulière, une vie d'attention, une vie de passion, une vie de merveilleuse qu'on voit avec l'abeille. Puis d'ailleurs, qui nous donne un petit peu l'enseignement de la vie de tous les jours. Comme je disais il n'y a pas très longtemps à nos charmants politiciens, si vous viviez comme la ruche, on serait moins emmerdé. Donc ça, c'est pour passer à autre chose. Alors, bien sûr, devenir apiculteur, c'est sortir un petit peu du train-train habituel. C'est d'avoir une idée et d'avoir un but dans la vie. Pas uniquement faire du miel, on peut faire plein de choses avec ça. Ne serait-ce que déjà protéger l'abeille, d'accord ? Bien sûr qu'on peut en vivre. Alors, ça dépend comment et pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la ruche ? On peut faire du miel, pas que. Préfère la propolis, pas que.
Propolis qui est quelque chose de magnifique, si vous pouvez l'avoir chez un agriculteur bien concentré, ça soigne les plaies, les maladies, c'est antiviral, c'est très très bien.
Alors moi je dirais que les produits de la ruche sont un trésor de la vie. Vraiment le trésor, parce que d'ailleurs c'est un peu ce qu'on dit quand on fait la première mielée, le mielée, que le miel coule, on dit c'est de l'or, mais c'est pas faux, parce que c'est tellement beau, et à l'intérieur il y a tellement de possibilités, de capacités de nourrissement, mais aussi de soins, parce que tu parlais tout à l'heure du propolis, mais par exemple le miel, il soigne les plaies. Tu as par exemple un CHR à Limoges qui fait ça depuis 20 ans, qui soigne les grands brûlés de France par exemple. Et ça, peu de gens le savent. Donc le rôle de l'apiculteur, c'est de participer à cette vie citoyenne, d'amener des solutions importantes de nutrition. Bien sûr, de gagner sa vie normalement, ça c'est possible, bien entendu. Un apiculteur gagne sa vie correctement. S'il fait ce métier intelligemment et correctement, il va en vivre, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, il faut qu'il se forme. Il va être dans un rucher école, par exemple, pour se former pendant un an. Il va apprendre les bases et peu à peu, il va se former toutes les années encore, avoir un peu plus d'informations qui permettra de faire ce métier un métier par excellence, bien entendu. Mais une fois que je le dis aux jeunes apiculteurs, une fois qu'il sera rentré dans la marmite, il ne pourra plus ressortir. Ça, c'est vrai.
Mais c'est une passion quand même qui est difficile actuellement. Il y a entre autres, encore une fois, la concurrence. Souvent déloyal, parce que on trouve du miel qui est plus du sucre que du miel. On a vu, il y a eu plusieurs scandales comme ça sur des miels importés. C'est ça les plus grands dangers pour bien vivre de l'agriculture.
La réponse à ça, c'est faites vivre votre apiculteur localement, à côté de chez vous. Il ne vous coûtera pas plus cher, il sera de meilleure qualité. Vous en ferez un ami en plus, donc c'est ça. Et si l'apiculteur a compris, il vend son miel à côté de chez lui. Le souci du miel importé, c'est surtout pour des très gros apiculteurs qui font des tonnes et des tonnes, bien entendu. C'est aussi des grandes surfaces qui ne jouent pas le jeu. Mais ça, que voulez-vous qu'on y fasse? On ne peut rien y faire. Par contre, on s'aperçoit depuis 4 ou 5 années qu'on fait de la promotion pour le miel français. L'achat du miel est en progression en France. Il n'est pas encore, pour nous, très important, mais on sent bien que les gens sont sensibilisés à faire vivre le miel français. Ça, on les en remercie, c'est important pour nous. C'est aussi un encouragement à continuer de faire de bonne qualité. Tout à l'heure, tu parlais de la propolis, on parle du pollen, on parle de la gelée royale, qui sont des bases de notre activité, qui peuvent rendre service à nos citoyens. C'est ça le rôle. Et quand un consommateur vient nous voir, c'est les questions qu'il pose. Il ne peut pas le poser dans une grande surface. Il a quoi? Il a un pot, on ne sait pas d'où ça arrive, on ne comprend rien. Alors quand il voit l'apiculteur, il dit, ouais, alors t'as du miel, oui, mais j'ai du pollen aussi. Ah mais j'ai du royal. Ah mais tu peux faire ça. Je crois que c'est des conseils. Je crois qu'on ne peut le faire avec l'apiculteur que si on veut conseiller aux gens, si on veut être proche de la population, si on veut leur donner des informations, c'est ça. Je dis aujourd'hui, consommateur que vous êtes, venez chez l'apiculteur, jeune qui voulait s'installer, formez-vous comme il faut. Parce que ce métier d'apiculteur n'est pas un métier par hasard. On ne se forme pas sur Internet. D'accord? Vous aurez des informations. Vous pouvez être formé, il faut être dans un lieu qui s'appelle Rucher École pour permettre aux gens de pouvoir être formés. Quoi. Donc c'est là qu'on va réussir à avoir une bonne formation.
Ok. Est-ce qu'il y a un moyen de différencier par une méthode ou une autre un miel vraiment naturel ou un miel où on a mis beaucoup de sucre, de glucose dedans? Vous avez, on m'avait dit de chauffer une cuillère, mais en fait ça ne marche pas, je crois.
Non, je crois que malheureusement, il y a tellement de personnalités qui sont capables de frelater n'importe quoi que même à des spécialistes, c'est difficile, d'accord? Mais rapidement, celui qui a le vrai goût du miel, honnêtement, je vous assure qu'on le voit, le mauvais miel. Pourquoi? Parce que le miel qui est mal fait ou qui est additionné de sucre, on le voit au goût. Il est âpre, il n'est pas bon, il n'est pas goûté, il n'est pas succulent. Alors quand vous prenez un miel qui peut être goûté, vous le comparez, vous aurez vite fait de savoir s'il est bon ou mauvais, c'est certain.
Bon, mais on enjoint tous les maires de France de se renseigner auprès de l'UNAF là, pour ce fameux label apicité, hein, pour aider les abeilles.
Et
abeilles sentinelles. Et évidemment, on invite tous les auditeurs à lutter contre la lutte pour le frelon asiatique et à regarder la qualité du miel qu'ils achètent. Vous avez une actu, c'est le moment auto-promo de l'émission, Patrick Grandiera.
Alors il faut savoir que l'UNAF avec tous ses adhérents, on organise tous les deux ans un congrès apicole européen qui se situe souvent dans des villes différentes. Donc là, en 2022 c'était à Quimper. En 2026 ça sera à Lot-et-Garonne à Agen. qui d'ailleurs avait eu la joie d'accueillir le premier congrès en 2012. Donc ça veut dire qu'en 2026, on va faire le congrès européen de l'apiculture. On va réunir non seulement les apiculteurs, bien sûr, surtout les apiculteurs, mais aussi les fournisseurs de matériel, mais aussi les conférenciers, des gens qui viennent apprendre, des scientifiques qui viennent nous expliquer, des techniciens qui vont expliquer les techniques, mais c'est aussi le moment de rencontrer l'apiculture avec les citoyens, où le citoyen va pouvoir goûter tous les miels d'Europe, par exemple. Il va pouvoir discuter avec pas mal d'apiculteurs, le pourquoi et le comment. Mais pas que, parce qu'on veut unir l'apiculteur avec les producteurs locaux, les maraîchers par exemple, pour bien faire comprendre aux citoyens que l'apiculture, c'est aussi un monde général. C'est pas que nous dans l'apiculture, mais c'est l'ensemble du monde agricole qui, ce jour-là, pendant 3 jours, vont se réunir, faire goûter du bon miel, déjeuner avec des bons repas du sud-ouest, bien entendu. On connaît bien le magret de par chez nous, par exemple, mais pas que, il n'y a que ça. Donc c'est aussi 3 jours de fête, 3 jours de découverte, 3 jours d'information, 3 jours, je dirais, d'instruction pour pouvoir savoir ce que c'est que l'apiculture en général à Agen. Donc ça sera le 1, 2, 3 octobre 2026.
Très bien, ben voilà, on habite tous sur la même planète et ce jour-là, à Agen, on habitera encore plus tous sur la même planète. En tout cas, on apprendra à se lier, se relier les uns les autres. Merci beaucoup Patrick Granziera. On rappelle, il y a un site internet évidemment pour l'UNAF. Si vous le cherchez, c'est unaf-apiculture.info. Bonne, ou abeillesentinelle.net aussi, qui est intéressant pour ce programme Abeilles Sentinelles. Merci beaucoup Patrick, au revoir.
Merci à toi, bien sûr, merci à tous, et puis venez nombreux au congrès, et surtout mangez du miel s'il vous plaît, mangez beaucoup de miel et de chez l'apiculteur à côté de chez vous.
L'ours et la carotte, écoutable sur internet. À la semaine prochaine.
You're listening HDR.
Le mix des plus durs.
C'est toujours Alexandre qui voulez-vous que ce soit.
HDR. Le mix des cultures.
HDR The Mix 99.1.
Si, si, 6, 10, c'est Grum, c'est que, le Queen's Pre-Easy. Je vérifie les petites billes de Hustler qui imitent ma technique dealer.
HDR 99.1.
Bitches
like a big old bitch. I see you trying to come, trying to get on, bitch. You going trip, slip, fall in and make on dick. And be the same nigga about to come and lick on this. All up.
Come on now, shit.
HDR le mix.
Sometimes it a be us and tear. Say certain girl a real animal here. But you better steer and share. You come in, see yourself.
991.
HDR, 24h sur 24, le mix tout qu'il tire.
Radio-HDR.fr.
HDR.
C'est sur le 99.1.
Le mix.
Vous êtes une femme de 25 à 65 ans ? Ce message vous concerne. Chaque année, plus de 3000 cancers du col de l'utérus sont diagnostiqués et provoquent le décès d'environ 800 femmes. Pourtant, grâce au dépistage régulier, 90% de ces cancers pourraient être évités. Entre 25 et 65 ans, faites-vous dépister. Le test permet de détecter la maladie à un stade précoce et d'augmenter les chances de guérison.
Parlez-en à votre médecin ou à une sage-femme. Informez-vous sur jefaismondépistage.cancer.fr. Un message de l'Institut National du Cancer.
Salut, c'est Mathieu Morand. Retrouvez-moi tous les jeudis à partir de 20h sur Radio HDR. Et cette saison, on remonte le temps. Chaque semaine, un nouvel épisode de mon émission Hard Time Machine, un voyage musical sur la planète métal à travers le temps.
Le voyage radiophonique. Des documentaires sonores, francophones, indépendants. Chaque mercredi à 18h et le samedi à 14h sur Radio HDR. Bon voyage.
Repartons, je vous emmène tous les vendredis dès 13h20 et le samedi suivant dès 8h sur Radio HDR 99.1 FM. Repartons, c'est la rencontre avec des passionnés et des professionnels. C'est des discussions et des réponses sur des sujets qui nous intéressent et nous concernent. Repartons, c'est tous les vendredis dès 13h20 et le samedi suivant dès 8h sur Radio HDR 99.1 FM.
Amateurs de musiques électroniques, cette information est faite pour toi. Des nouveautés, du mix, mais surtout des interviews d'artistes. DJ Academy, c'est votre magazine hebdomadaire Nouvelles Tendances Électroniques. DJ Academy, présenté par Stéphane Chambord, à retrouver sur l'antenne de Radio HDR 99.1 FM, tous les mercredis à partir de 23h.
HDR, le mix 99.1.
Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes sont assis aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous sur le nez, ça les fait toujours rigoler. Allez oui, tapons-nous entre nous, ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront des canifs et des idées malsaines pour que nos petites vies s'enfouissent dans la violence et la haine. Alors quoi, on va coucher dehors, sous des ponts d'or que nous aurons construits pour aller de leur cuisine à leur living, living room. C'est pas du plan, c'est pas du plan, c'est le living room des vieux singes savants, c'est le living, 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 living room. C'est pas du plan, c'est le living, 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 living room. C'est pas du plan, c'est le living, 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 living room. Nous sommes tous nés, mon ami, nous sommes tous vivants, c'est inscrit dans notre œil, tu vois, au fond, ça lui. D'une envie de vivre, d'une envie de parcourir le monde, cette bonne terre si gironde. Mais non, voilà qu'on nous gronde, car sans laisser passer, faut pas se laisser aller à rêver d'une autre vie. Mon ami, non, 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 faut pas rêver, car pour rêver, faut des laisser passer du papier pour passer sa vie de l'autre côté du pont. Des ponts d'or dehors, y'en a des tonnes. C'est pas qu'on les ignore, car on les voit souvent passer de leur cuisine à leur living, living room. C'est pas du plan, c'est pas du plan, c'est le living room des vieux singes savants, c'est le living, 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 living room. C'est pas du plan, c'est le living, 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 living room. C'est pas du plan, c'est le living, 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 living room. Sont assis dans la...